Merci, cher Joab, et je dis Amen à ta présidence. Je reprends le mot que tu as le plus répété, et merci encore vraiment pour ce temps passé devant le Seigneur. Et je dis aussi Amen pour le chant que nous venons de chanter, ta parole, et c'est cette parole-là que j'aimerais, ou je vous invite à ouvrir maintenant. Nous allons lire ensemble au psaume 32. Le psaume 32. Nous poursuivons nos méditations sur le livre des psaumes et donc je propose ce matin le psaume 32. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main pesait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître un péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions au Seigneur. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable. Si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi, tu me gardes de la détresse, tu m'entoures des cris de délivrance. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Il y a beaucoup de douleurs dans la maison du méchant, mais celui qui se confie dans le Seigneur est entouré de sa bienveillance. Juste, réjouissez-vous dans le Seigneur, soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits du cœur. Jusqu'ici, notre lecture. Qui n'a pas expérimenté l'échec dans sa vie? Qui n'a pas agi d'une manière qu'il a regrettée par la suite? Qui peut prétendre être cohérent, parfaitement cohérent, avoir une cohérence totale, parfaite? Personne. Vraiment, personne de tous ceux qui ont vécu sur la terre, excepté, bien entendu, notre Seigneur Jésus-Christ. De grands prophètes ont eu tous un jour à se repentir devant le Seigneur, à demander à Dieu son pardon. Des grands penseurs aussi. Aucun, non pas qu'ils aient eu le temps de se repentir, mais en tout cas ne prétendent pas d'être pleinement cohérents, de n'avoir jamais connu la chute, sauf bien sûr que certains ne le reconnaissent pas, ou ne le reconnaissaient pas, ils étaient tellement aveuglés par leur orgueil que Il ne faisait plus la différence entre tomber et être debout. D'ailleurs, l'un des philosophes les plus connus, un philosophe chinois, Confucius, qui a vécu au milieu du VIe siècle jusqu'à la première partie du Ve siècle avant Jésus-Christ, disait « La plus grande gloire pour l'homme, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. » David nous rapporte ici, dans ce psaume justement, la gloire de se relever, d'être relevé plutôt par le Seigneur, et plus précisément la joie d'être pardonné par Dieu. Certes, il a fallu à David un peu de temps pour prendre conscience de sa faute, de sa désobéissance. Mais une fois conscient de son péché, de sa désobéissance, il se tourne vers le Seigneur, demande au Seigneur son pardon et obtient le pardon du Seigneur. D'après la tradition, David aurait composé ce psaume juste après son adultère avec Bathsheba et le meurtre de son mari Uri. Cette histoire nous est rapportée dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 11 et 12. Et d'ailleurs, David composera un autre psaume où il reviendra en détail sur cette histoire, c'est le psaume 51. Dans un premier temps, David a voulu cacher son double péché, adultère et meurtre, et tous les deux, sont sanctionnés par la peine capitale, par la loi de Moïse, Lévitique 20, Exode 12. Il a fallu donc la venue d'un prophète, le prophète Nathan, pour faire comprendre et faire prendre conscience à David la gravité de sa désobéissance. Avec un langage très diplomatique, il parlait quand même à un roi et pas à n'importe qui, mais avec un langage diplomatique, mais sans langue de bois, Nathan, le prophète, démasque le péché de David et il aide de cette manière à se ressaisir et à se tourner à nouveau vers le Seigneur. Au psaume 32, David dit son expérience de sa confession et du pardon de son péché. Il nous dit le bonheur retrouvé après avoir eu le courage, la force de confesser son péché et la grâce d'obtenir le pardon de Dieu. David fait l'expérience de celui dont parle le livre des Proverbes au chapitre 28, le verset 13. Il nous y dit « Celui qui cache ses transgressions n'aura pas de bonheur. Celui qui les confesse et y renonce obtiendra miséricorde. » C'est ce que David nous raconte dans ce psaume 32. Il fait l'expérience de ce proverbe, chapitre 28, verset 13. David nous montre le chemin à prendre, le chemin de la repentance. C'est pour cela que ce psaume fait partie de ces psaumes appelés psaumes pénitentiels. Il y a 7 dans les psaumes, dans le livre des psautiers, et donc ce psaume en fait partie. D'après son ami, saint Augustin, s'était fait une copie de tous ces psaumes qu'il mettait juste en face de son lit et qu'il lisait régulièrement, souvent avant de dormir, avec des larmes. Et on disait qu'il trouvait beaucoup de réconfort et d'encouragement, de soutien. Une chose est sûre, le psaume 32 peut nous aider, nous aussi, à revenir vers le Seigneur, lui confesser nos péchés, nos transgressions, nos incohérences, et recevoir aussi son pardon, retrouver à nouveau la paix dans notre relation avec le Seigneur. Avant d'exposer son cheminement, sa démarche, David commence d'abord par nous raconter la fin de l'histoire. Il commence d'abord par nous dire le résultat de son expérience. Il nous dit qu'il est maintenant heureux, qu'il est bien heureux. Il est heureux parce que le Seigneur lui a pardonné sa désobéissance et il ne tient plus compte de son péché. Et de ce fait, David, il dit que tous ceux qui vont faire la même expérience que lui, confesser leur péché et recevoir le pardon de Dieu, seront des hommes, des femmes heureux, bien heureux. Il utilise une double béatitude dès le début de ce psaume pour qualifier cet homme heureux. En effet, dans le livre des psaumes, et ce n'est pas la première fois, le psautier commence par la béatitude heureux. Mais c'est le seul endroit où on trouve une double béatitude. Cela, probablement, c'est pour marquer le caractère extraordinaire de cette expérience de demande de pardon et de retrouver le pardon du Seigneur. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné, nous dit David au début de ce psaume. Deux images qui sont employées ici pour parler du pardon du péché. La première concerne la transgression enlevée. La transgression est remise. Nous avons là l'idée d'une dette qui est remise, que le débiteur ne peut pas régler par ses propres moyens, n'a pas les moyens de régler sa dette par ses propres ressources. Et cette dette lui a été remise. Cela nous rappelle l'enseignement de Jésus sur la question du pardon dans l'Évangile, et tout particulièrement quelques paraboles où, en effet, le pardon chrétien, le pardon que Dieu ne propose, n'est autre que cette dette immense qui nous a été remise parce que personne ne peut la régler par ses propres ressources. C'est par grâce, comme nous l'avons lu au début de ce culte. La deuxième image qui est utilisée, c'est celle du péché couvert ou le péché caché. Le verbe qui est employé pour dire cela littéralement, c'est vraiment le verbe caché, le verbe couvert, pour qualifier une faute qui est confessée. Une faute confessée, c'est une faute couverte, c'est une faute, c'est pas cachée. David va utiliser le même verbe au verset 5 pour dire « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. Il a bien raison de dire « je n'ai pas couvert ma faute ». Car il y a la différence entre le fait de couvrir sa faute et de laisser le Seigneur couvrir notre faute. Lorsque, si nous qui couvrons notre faute, nous subissons les conséquences, cela aboutit simplement au trouble, au désespoir. Mais lorsque c'est le Seigneur qui couvre notre faute après que nous l'ayons confessée, cela conduit au contraire à la paix, au repos, le repos de l'âme, mais aussi le repos du corps, de tout l'être. Dieu ne demande pas à l'être humain de couvrir lui-même son péché, au contraire, il nous demande de le dévoiler, mais il se charge de la mission de couvrir notre faute. Il se charge lui-même de la mission de cacher notre faute une fois confessée et une fois le pardon est demandé et est accordé. Dès le début de la désobéissance humaine avec Adam et Ève, on voit le Seigneur agir de cette manière. C'est le Seigneur qui s'est chargé de couvrir leur honte en leur fabriquant un vêtement de peau par lequel il est revêtu, nous dit Genèse 3. Nous avons là une belle image de ce vêtement de pardon, de justice que Dieu allait accorder à tout homme, toute femme qui se tourne vers lui, qui dévoile son péché, qui reconnaît sa désobéissance et que le Seigneur accorde son pardon. En Jésus-Christ, notre péché est enlevé et notre faute est pardonnée. En Jésus-Christ, nous sommes couverts par le sang, son sang, par le sang de la Nouvelle Alliance. Nous sommes purifiés, lavés de nos péchés, comme nous le dit Jean dans sa première épître. En plus du pardon des péchés, l'homme heureux dans notre psaume est aussi celui à qui Dieu ne tient plus compte de ce péché. Non seulement il lui pardonne, mais il ne tient plus compte de ce péché. Ce qui est en cause ici, c'est vraiment non seulement le pardon, mais la justice que Dieu nous donne et non pas celle que nous pourrions acquérir ou mériter par nos propres œuvres. Dans notre contexte d'ailleurs, dans le contexte de notre psaume, s'il y a une chose que David mérite, à vrai dire, si il fait vraiment allusion à son péché, à son adultère et à son meurtre, la seule chose que David mérite ici selon la loi, c'est la double peine capitale. Mais le Seigneur ne lui a pas, ce n'est pas de ce mérite. Il ne s'est pas contenté de regarder ce que mérite David, les actes de David, mais il lui a accordé son pardon et sa propre justice. L'apôtre Paul cite justement ces versets, le début de ce psaume, dans l'épître aux Romains, au chapitre 4, au début de ce chapitre, pour parler de la justice que Dieu nous donne, de la justice que Dieu donne à tout être humain. Cette justice que le Seigneur nous accorde à tout être humain qui se repent, qui vient en Christ, cette justice que Dieu donne en Jésus-Christ, qu'il nous donne, qu'il porte à notre compte pour nous permettre simplement d'être juste devant le Seigneur et de nous tenir devant sa présence. Autrement, nous ne pourrions pas nous approcher de la justice de Dieu. Il ne s'agit pas donc ici d'une vie juste à laquelle nous pourrions parvenir par notre vie de tous les jours, par notre consécration, aussi totale soit-elle, mais il s'agit ici de la justice que Dieu nous donne, de la justice que Dieu nous accorde gratuitement par grâce. Et cet enseignement reviendra à plusieurs reprises et tout au long du Nouveau Testament. C'est cet enseignement qui revient et le passage que nous avons lu, que Joël nous a lu ce matin, en fait partie. Dieu a accordé cette justice déjà aux croyants de l'Ancien Testament. Abraham était le premier à être appelé juste devant le Seigneur, c'est Genèse 15. Et par la suite, d'ailleurs, Paul citera l'exemple d'Abraham pour appuyer son enseignement sur la justice de Dieu. Et David fait partie aussi de ces croyants de l'Ancien Testament qui ont été justifiés par Dieu. Et c'est ce qu'il dit ici simplement dans ce psaume. Il nous dit qu'il est déclaré juste par le Seigneur. Dieu nous déclare juste indépendamment de notre œuvre de justice. Alors la question qui risque de se poser à notre esprit est de dire dans ce cas-là, pourquoi donc faire des efforts pour continuer à vivre selon le Seigneur? Pourquoi ne pas continuer à vivre dans le péché, Parfois, nous sommes tellement tordus que nous pourrions avoir ce genre de raisonnement. Et à cette question, il faut dire très clairement que celui qui est au bénéfice de la justice de Dieu ne peut que vivre selon la justice de Dieu, ne peut que détester le péché, fuir le péché et laisser le Seigneur le transformer et le changer, même s'il va connaître des échecs, hélas, des désobéissances, mais revenir encore et encore vers le Seigneur. Nous ne pouvons pas être au bénéfice de la justice de Dieu tout en continuant à vivre dans le péché comme si c'est un mode de vie normal. Il y a une incohérence. Il va falloir, si nous continuons à vivre dans le péché, nous poser très sérieusement la question si nous avons vraiment compris et reçu la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu donne, la justice que Dieu nous donne entraîne en nous un mouvement et d'une manière vraiment profonde, radicale, qui va vers la consécration, la sanctification, vers le rejet du péché et de la désobéissance, une réelle volonté de vivre selon la parole du Seigneur. Et d'ailleurs, la fin de ce verset 2 de notre psaume dit très clairement que la personne au bénéfice de la justice de Dieu n'a point de fraude dans son esprit. Une manière de dire que l'homme pardonné ne trichera plus. On pourrait le comprendre aussi que l'homme pardonné est celui qui a été honnête, qui ne se ment pas à lui-même en essayant de cacher son péché, mais qui est honnête devant le Seigneur et qui le reconnaît, qui le confesse. Dans tous les cas, l'homme au bénéfice de la justice de Dieu ne peut que chercher à vivre selon la justice de Dieu. Et nous qui sommes au bénéfice de la justice de Dieu, en Jésus-Christ, de son pardon, nous ne pouvons que chercher à vivre selon notre Dieu, pour ne pas l'attrister, mais aussi simplement parce qu'il y a une immense, notre immense dette nous a été remise, donc il est normal d'essayer de vivre dans la liberté qui nous a été accordée, la liberté de vivre dans la justice de Dieu, selon la vocation que le Seigneur nous a accordée. Un homme au bénéfice du pardon de la justice de Dieu est un homme heureux, bienheureux, doublement heureux, pour reprendre, faire ressortir la double béatitude de début de ce psaume. Et après avoir exposé donc le résultat de sa démarche, David maintenant commence à nous parler de son cheminement. Il revient sur les différentes étapes de son cheminement, de ce cheminement qui l'a conduit d'un homme écrasé par le poids de son péché jusqu'à un homme heureux, bienheureux, complètement libre, délivré de sa condamnation. Comme je le disais au début, David ne voulait pas confesser son péché au Seigneur. Il voulait le cacher même au Seigneur et à lui-même. Il n'avait pas l'intention de l'avouer devant le Seigneur. Le péché de David concerne bien sûr sa désobéissance, mais aussi concerne sa volonté, sa dissimulation, vouloir dissimuler sa désobéissance. D'ailleurs, le seul péché qui est mentionné dans ce psaume, ce n'est pas cette désobéissance, le meurtre et l'adultère auquel je faisais allusion tout à l'heure, auquel la tradition fait allusion, mais le seul péché mentionné explicitement dans ce psaume est celui de ne pas confesser ses péchés. Il y a là peut-être une volonté de mettre l'accent sur l'importance de dévoiler son péché et la gravité de vouloir le garder caché, de ne pas le dévoiler devant le Seigneur pour recevoir son pardon. Tout comme nous, les membres du peuple d'Israël, autrefois, commettaient aussi des fautes, des péchés. Ils n'étaient pas irréprochables. Ils trébuchaient, ils transgressaient la loi. Les gens de la Bible, dont la Bible ne parle, à commencer par, y compris Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, vendu par ses frères, Jacob, donc, qui trompe son frère, et ainsi de suite. Et pourtant, tous ces hommes-là, à chaque fois qu'ils se sont tournés vers le Seigneur leur a pardonné, et ils ont obtenu le pardon de leur péché. Et ensuite la joie de marcher à nouveau avec le Seigneur. En effet, c'est triste de désobéir au Seigneur. C'est toujours une réelle tristesse et cela ne doit pas, le fait que ça revient hélas souvent dans notre vie, ne doit pas diminuer de la gravité de notre désobéissance. Et c'est triste de désobéir au Seigneur. Mais c'est encore plus grave, me semble-t-il, de ne pas revenir au Seigneur. C'est encore plus grave de ne pas confesser notre péché devant le Seigneur. C'est encore plus grave de rester dans notre état de désobéissance, de rester dans notre avec un cœur qui s'obstine et qui finit par ne plus devenir sensible à la grâce de Dieu, au pardon de Dieu, à l'amour de Dieu. Ce refus de retour vers le Seigneur peut nous conduire à passer vraiment à côté de ce bonheur auquel Dieu nous appelle. Dans un premier temps, David s'est laissé prendre dans ce piège et il n'a pas voulu confesser son péché devant le Seigneur et cela l'a conduit à passer par des moments très durs. Et des moments très durs qu'il décrit au verset 3 et 4 avec des mots très forts. « Tant que je me suis étu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » David fait l'expérience de la douleur profonde qu'engendre le péché. Elle est question des os, de ces os qui se consumaient, de gémir à longueur de journée, de vivre jour et nuit sous le poids écrasant de son péché. Il dit perdre toute vigueur, toute vie, toute sève. Comme le disait le proverbe 28, celui qui cache ses transgressions n'aura pas le bonheur. Fort heureusement, David n'est pas resté dans cette phase, dans cette posture. Au contraire, il a décidé, aidé certes par le prophète Nathan, il a décidé de confesser son péché, de le dévoiler devant le Seigneur, de dire sa désobéissance devant le Seigneur et ne pas continuer à camoufler, à refouler son péché au fond de lui-même. David reprend au verset 5 les mêmes mots qui sont employés pour parler du péché au verset 1 et 2. Les trois mots qui sont employés pour parler du péché, à savoir mon péché, ma faute, mes transgressions. David n'est pas resté donc dans son entêtement initial, mais au contraire, il a fini par trouver la voie de la raison, confesser son péché devant le Seigneur, et la suite, c'est le soulagement. Le soulagement qui découle de l'humiliation et la grâce d'être accueilli par le Seigneur. L'apôtre Jean nous encourage, nous aussi, à ne pas garder notre péché caché, mais au contraire, à le confesser, sachant qu'au bout, il y a une promesse, et une promesse certaine dans la mesure où elle n'est pas fondée sur nos œuvres, mais sur l'œuvre de Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 1. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, nous purifier de toute injustice, écrit l'apôtre Jean au premier chapitre de la première épître, de sa première épître. Nous sommes invités donc à suivre l'exemple de David, confesser notre péché pour être au bénéfice du pardon de notre Dieu. C'est cela que nous avons fait lors de notre conversion, lorsque nous nous sommes approchés pour la première fois vers le Seigneur, et c'est ce que nous sommes encouragés à faire tout au long de notre vie chrétienne, à chaque fois que le Saint-Esprit nous convainc du péché. Nous voulons vivre le bonheur dont parle le proverbe 28, verset 13. Il ne faut pas cacher notre transgression, mais la confesser et y renoncer. Essayer de nous déguiser nos propres fautes, nos propres péchés, les cacher au Seigneur, c'est simplement nous condamner à la torture du remords. Mais les avouer, c'est rentrer aussitôt en grâce, rentrer aussitôt dans l'assurance, dans l'amitié que le Seigneur nous offre, dans le pardon que le Seigneur nous offre, dans les faveurs que Dieu nous accorde. Ces faveurs sont protection, consolation, guide, direction, instruction, allégresse, joie, bonheur, etc. Nous ne laissons pas donc, très chers frères et sœurs, nous prendre à la fournaise de péchés non confessés. Mais ayons toujours le courage, ayons toujours la lucidité de revenir au Seigneur, encore et encore, auprès du Seigneur, pour obtenir auprès du Seigneur son pardon, pour recevoir sa délivrance. David fait une expérience extraordinaire. Suite à la confession de son péché, il découvre qu'au bout, il découvre que dans son humiliation, le Seigneur est pour lui un abri. Il n'est pas là pour le juger, le condamner, mais il est un abri. Un abri sûr, un abri contre lequel même les grandes eaux ne peuvent rien faire. Cette découverte, mais à vrai dire, c'est une redécouverte, pousse David à lancer une exhortation à tout fidèle, pour que tout fidèle, au moment convenable, puisse prier et ne pas se laisser abattre par le péché non confessé. David vient de découvrir le pardon de Dieu, ce pardon de Dieu qui dépasse, à vrai dire, toute limite. Et de ce fait, il invite le fidèle, qui n'est autre que pécheur comme lui, sous le poids de péché, à se tourner vers le Seigneur, à suivre sa marche à lui, c'est-à-dire confesser son péché, recevoir le pardon de Dieu. David précise qu'il faut faire cette prière au temps convenable, c'est-à-dire avant que ce soit trop tard, au bon moment. C'est pour cela que certaines traductions traduisent « il faut se tourner, prier au temps où l'on peut te trouver », littéralement « on peut trouver », c'est-à-dire « on peut trouver Dieu ». Un temps où Dieu se laisse encore consulter, se laisse encore approcher par le pécheur. Cela rejoint exactement ce que le prophète Isaïe disait déjà au chapitre 55 dans son livre « Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver, invoquez-le pendant qu'il est proche, que le méchant abandonne sa voie, l'homme malfaisant ses pensées, et qu'il revienne au Seigneur qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. » Isaïe 55. David a su se tourner, s'adresser à Dieu, prier le Seigneur au temps convenable. Et il nous invite maintenant à faire pareil et à ne pas laisser ce temps convenable passer, filer, tellement il passe vite, sans nous adresser au Seigneur, sans nous tourner vers notre Dieu. Il y a une promesse du Seigneur pour ceux qui se tournent vers lui au bon moment. Si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Verset 6. Une maison fondée sur le roc du pardon de Dieu n'a pas à craindre la tempête ni l'inondation. Le Seigneur est un refuge pour ceux qui s'humilient, qui se tournent vers lui. Après nous avoir invités à revenir au Seigneur, David maintenant s'adresse à Dieu directement, en lui disant « Tu es un abri pour moi, tu me gardes de la détresse. » David redécouvre cette réalité que le Seigneur est un abri pour lui parce qu'il l'avait déjà dit au chapitre 18, au psaume 18. Le verset 2 au psaume 18, il dit « Seigneur, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Seigneur, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Écrivait déjà David au psaume 18. Mais le péché, parfois, peut faire oublier même les expériences les plus riches, les plus intimes que nous avons vécues avec le Seigneur. Heureusement, la repentance est là pour nous faire revenir, redécouvrir l'amour, le pardon de notre Dieu, nous faire redécouvrir ce qui est vraiment le Seigneur pour nous. Le Seigneur est un abri pour celui qui se cache en lui. Le Seigneur se charge de cacher celui qui n'a rien à cacher devant lui. David n'est pas le seul à être au bénéfice de ce pardon. Il y a apparemment autour de lui de nombreux cris de délivrance qui se font entendre. Une manière de dire, il y a aussi d'autres personnes qui sont au bénéfice de la délivrance du Seigneur. La générosité du Seigneur est immense et son désir est ardent, un désir ardent de voir un grand nombre de personnes se tourner vers lui, être au bénéfice de son pardon, au bénéfice de son amour. Voilà pourquoi nous devons nous aussi proclamer, dire le pardon, l'amour de Dieu pour ceux qui nous entourent. Voilà pourquoi nous devons laisser le Seigneur se servir de nous, de notre langue, de nos mains, de notre vie, pour dire son appel à la repentance et au pardon. Pour faire entendre cet appel qu'il avait lancé dès le début de son ministère, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il dit « le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez dans la bonne nouvelle ». Tel est le message que nous sommes invités, nous aussi, maintenant à notre tour, là où le Seigneur nous place, à faire entendre pour qu'un grand nombre de cris de délivrance puissent se faire entendre encore autour de nous. Pas simplement dimanche matin, mais aussi auprès de la famille, des amis, des collègues, des cris de délivrance des cris de joie parce que Dieu veut accorder son pardon et sa délivrance à de nombreuses personnes. C'est notre responsabilité individuelle, mais aussi collective, autant qu'Église, de faire entendre à beaucoup de personnes cet appel du Seigneur pour être au bénéfice de son pardon et recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile. Notre Dieu veut être un abri pour nos concitoyens, surtout dans ces temps bien troublés, dans ces temps où nous sommes frappés par des événements où tout le monde a peur à cause des circonstances. Dieu veut rejoindre chacun, être un abri sûr pour ceux qui se tournent vers lui. Un abri que ceux qui peuvent tuer le corps ne peuvent rien faire, contre lequel ils ne peuvent rien faire, car même s'ils arrivent à tuer le corps, notre âme, personne ne peut la toucher. C'est l'une des belles consolations que le Seigneur donne à ses disciples lorsqu'il les envoie en mission, et en particulier face à la persécution, en disant « Ils ne peuvent pas ôter votre âme et elle vivra. Je suis le gardien, le Seigneur est le gardien de notre âme. » Le Seigneur veut être, en plus de ce que le Seigneur veut être pour chacun d'entre nous, en plus de ce que le Seigneur est, a été pour David, le Seigneur apporte maintenant une belle réponse à la prière de repentance exprimée par David et aussi à sa proclamation, à sa confession de foi, versets 3 à 5, sa prière de repentance, la confession de foi au verset 7. Le Seigneur maintenant déclare au verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, dit le Seigneur à David. » Ce n'est pas la première fois dans le livre des psaumes où on voit le Seigneur intervenir au milieu d'un psaume. David écrit, dit des choses, et à un moment donné, le Seigneur intervient au milieu et il ne fait entendre sa voix. C'était le cas déjà au psaume 12, et ce sera le cas dans les psaumes à venir, au psaume 60 par exemple, 81, 95, etc. Le Seigneur promet à David qu'il allait l'instruire et lui montrer la voie à suivre. David n'est pas simplement donc n'est pas seulement au bénéfice du pardon de Dieu, après avoir confessé bien entendu son péché, mais il est aussi au bénéfice du conseil de Dieu, il est au bénéfice de l'instruction du Seigneur. David est relevé, non seulement relevé de sa faute, mais maintenant renouvelé intérieurement par l'instruction de son Seigneur. Et désormais, il est au bénéfice de la direction de Dieu. Déjà au psaume 25, David demandait au Seigneur, « Montre-moi le chemin à suivre, enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. » C'est au psaume 25, verset 4. Et juste quelques versets plus tard, donc au verset 8, il dit, « Oui, le Seigneur est bon, il est juste, il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide vers la voie droite. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. » Toutes les voies du Seigneur sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance, obéissant à son commandement. Nous sommes au chapitre 25, psaume 25. Une fois qu'il s'est humilié devant le Seigneur, David est au bénéfice maintenant de la guidance du Seigneur. En d'autres termes, David fait l'expérience au psaume 32 de ce qu'il avait annoncé au psaume 25. Au psaume 25, il dit « Le Seigneur conduit, instruit le pécheur repentant. » Et au psaume 32, il dit « Je vis cette réalité-là. » Être pardonné, c'est bien, mais être en communion avec le Seigneur, retrouver la communion avec le Seigneur, c'est encore mieux. Lorsqu'on a fait l'expérience du poids du péché écrasant, nous sommes heureux de faire l'expérience de toucher léger et doux de notre Seigneur. Le Seigneur prend soin de ceux qui se tournent vers lui. Il ne laisse pas ses enfants écrasés sous le poids du péché, mais pourvu que ses enfants se tournent vers lui, il le prie au moment opportun. Le Seigneur pose son regard doux et léger sur ceux qui le craignent, qui s'attendent à sa bienveillance. Il criera au psaume 33, le verset 18, toujours David. Voilà pourquoi nous avons l'exhortation au verset 9 à avoir de l'intelligence. Avoir de l'intelligence pour entendre, pour comprendre l'instruction du Seigneur, pour comprendre la parole du Seigneur. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils s'approchent de toi. On passe ici de « tu », « je t'instruirai » du verset 8, à « vous ». Ne soyez pas dans notre verset. On passe ici de la personnalisation de la parole adressée à David à la généralisation de cette parole adressée à tous, à chacun d'entre nous. Nous avons l'image d'un cheval ici, l'image d'un cheval fougueux qu'il faut brider, car parfois le cheval se laisse porter par sa fougue et tente de s'écarter complètement du chemin qui lui a été tracé. Jérémie fera allusion aussi à cela au chapitre 8 de son livre. Sauf que le cheval oublie complètement le cavalier qui est sur lui, le cavalier qui tire le mors et qui parfois est obligé de le blesser, par moment, obligé de le blesser pour le remettre sur le chemin, pour le remettre sur le bon chemin, sur la bonne direction. De la même manière, nous devons veiller à ne pas être comme ce cheval ou ce mulet sans intelligence pour ne pas obliger simplement notre Seigneur de se servir du mort pour nous remettre sur le chemin, pour ne pas forcer le Seigneur à nous blesser, pour nous remettre sur le bon chemin. Car il tient à nous, il nous aime, il veut que nous arrivions jusqu'au bout. Il est très heureux du jour où il nous a vu prendre la décision de marcher avec lui, mais il est bien déterminé de nous conduire jusqu'au bout. Il y a beaucoup de douleurs qui attendent ceux qui s'écartent de la route. Mais ceux qui font confiance au Seigneur, même si par moments ils ne comprennent pas, ils ne voient pas le bout du chemin, ceux-là sont entourés d'amour, de tendresse de notre Seigneur. Le Seigneur Jésus est venu pour justement nous faire comprendre le plan de Dieu, pour nous accorder cette intelligence, susciter en nous cette intelligence nécessaire pour comprendre le plan de Dieu, la parole du Seigneur, pour avancer les yeux fixés sur l'objectif et ne pas perdre notre temps dans des choses inutiles de la vie qui ne mènent nulle part sinon à la détresse et au malheur. Jésus dit à ses disciples, vous êtes mes amis, je suis venu pour vous faire comprendre le plan de mon Père, la volonté de mon Père. Tout ce que mon Père m'a dit, je vous l'enseigne, nous dit Jésus. Et si Jésus fait cela, c'est pour nous donner l'intelligence de comprendre. En effet, en Christ, nous pouvons être au bénéfice de cette intelligence qui peut nous éviter des attitudes comme celle d'un cheval ou d'un mulet sans intelligence. Notre psaume se termine comme il a commencé, avec une note portant sur la joie, portant sur le bonheur. Avant d'inviter à se réjouir dans le Seigneur, David rappelle le privilège qui est celui qui se confiait dans le Seigneur. Il est entouré de bienveillance du Seigneur, dit David au verset 10. Juste réjouissez-vous dans le Seigneur et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. David lance un appel à nous réjouir et à rendre honneur au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Parmi tous ses bienfaits, notre psaume énumère déjà un certain nombre, à savoir le pardon des péchés, la délivrance accordée, l'intelligence de le connaître. C'est immense. Rien que cela, c'est immense. Et c'est ce qui est accordé à tous ceux qui se tournent vers le Seigneur, y compris aujourd'hui encore pour nous. Pour ceux qui veulent se tourner vers le Seigneur, c'est aussi vrai. La vraie joie, le vrai bonheur, c'est de nous savoir pardonner par Dieu. C'est de pouvoir marcher avec lui. C'est de pouvoir être toujours au bénéfice de sa parole, de sa lumière. C'est de le connaître, connaître lui, le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Telle est la vie éternelle, dit Jésus dans sa prière dans Jean 17. Et en tout cela, le Seigneur l'offre encore de nos jours à ceux et celles qui se tournent vers lui. C'est-à-dire, le Seigneur l'offre encore aujourd'hui pour ceux qui acceptent de s'humilier devant le Seigneur. Et si parmi nous, il y a l'un ou l'autre qui n'a pas encore fait cette démarche, qui ne s'est pas encore humilié devant le Seigneur, reconnu son péché, c'est aussi possible aujourd'hui d'être au bénéfice de toutes ces grâces, d'être au bénéfice de son pardon et plus encore de le connaître personnellement. À la question donc de l'échec et du manque de cohérence dans notre vie, le Seigneur nous apporte une réponse. Le Seigneur nous propose son pardon à chaque fois que nous reconnaissons et que nous confessons nos incohérences pour nous détourner d'elles. Le livre des Proverbes nous dit « Le juste tombe 7 fois, mais le Seigneur le relève ». En Jésus-Christ, Dieu pardonne nos péchés, nos transgressions, et notre vie chrétienne commence par la confession de notre péché, de nos péchés, et par la réception du pardon de Dieu. Et c'est cela qui nous conduit à une relation personnelle avec le Seigneur. Tout au long de notre vie chrétienne, le Seigneur continue à nous pardonner, continue à nous délivrer de nos péchés, continue à nous délivrer de nos mauvaises habitudes, de nos mauvais travers, qui parfois peuvent remonter très loin dans notre enfance même. Le Seigneur nous accorde la grâce, l'intelligence de le connaître, de le reconnaître. Le Seigneur nous accorde son pardon. Et il renouvelle en nous, par sa parole, notre pensée pour pouvoir comprendre ce qui est bon, juste, agréable, ce qui est bon, agréable et parfait de sa volonté pour nous. C'est dans Romains 12. Voilà pourquoi nous devons toujours revenir au Seigneur, tout comme David l'avait fait avant nous. Nous devons toujours laisser le Seigneur nous relever et ne pas cacher notre péché, mais ne pas laisser notre péché, quelle que soit d'ailleurs sa gravité, nous empêcher de revenir vers le Seigneur. Le péché le plus grave, c'est de ne pas confesser son péché, de ne pas revenir au Seigneur. C'est le péché impardonnable. Le péché impardonnable, c'est celui qui refuse de reconnaître qu'en Jésus-Christ, il y a le pardon suffisant, même pour le péché le plus horrible que nous pourrions vivre. Voilà pourquoi j'aimerais nous encourager à nous tourner, retourner au Seigneur pour obtenir le pardon de nos péchés, mais plus encore, revenir au Seigneur pour marcher avec lui dans une harmonie, dans une relation riche, belle, profonde, jour après jour nourri par sa parole, jour après jour nourri par son amour. Amen.